Eh bien, bonjour à tous nos auditeurs de Fréquence Mistral. Bonjour Sophie Laurence qui est avec nous pour cette émission Les Poèmes du Lundi qui est préparée et présentée par Sophie Laurence. Aujourd'hui, elle va nous parler de Jacques Prévert. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Alors Jacques Prévert, un poète et scénariste français, né le 4 février 1900 à Neuilly-sur-Seine et décédé le 11 avril 1977. Après le succès de son premier recueil de poèmes, paroles, il devint un poète populaire grâce à son langage familier et à ses jeux de mots. Ses poèmes sont depuis lors célèbres dans le monde francophone et massivement appris dans les écoles françaises. Il a également écrit des scénarios pour le cinéma. Alors Sophie, on vous écoute.
Oui, alors c'est moi qui dis le texte, mais c'est le texte de Jacques Prévert. C'est lui-même qui va parler pendant toute l'émission, avec quelques chansons. Donc, voilà ce que disait Prévert. « Mon père et ma mère ne riaient pas autant ensemble. Mais ça se voyait qu'ils s'aimaient beaucoup. Et même, quelque part, ils se ressemblaient. Parce qu'il y avait de grands fous rires. La mère de Jacques avait de grands fous rires. Et je crois que ça l'a beaucoup marqué pour le reste. Lui aussi, il aimait beaucoup rire et sa mère a une très grosse influence sur lui. Aussi bien d'ailleurs dans la poésie, tout ça. Voilà, parce qu'elle était musicienne, donc aussi, elle l'entendait jouer, etc., etc. Donc c'est elle qui lui a enseigné la lecture, l'écriture. Et il est allé à l'école plus tard que son frère, par exemple. Voilà. Alors quand il riait, elle disait à son fils, « Tu vois, c'est contagieux. Il y en a qui attrapent froid et d'autres la gaieté. » Alors, elle avait des yeux bleus extraordinaires. Et c'était les fameux yeux bleus des Prévert, les deux frères Prévert aussi. Ils avaient des yeux bleus extraordinaires, très intenses. Donc, j'appelais ça les regards bleus des Prévert. Et son frère, c'était l'aîné, Pierre. Il était très beau. Mais il était sérieux et allait déjà à l'école. Ma mère adorée fut ma première institutrice, avec les contes de Grimm, entre autres l'oiseau bleu, par exemple. Un souvenir impérissable, une féerie montée au Châtelet. Il lisait aussi passionnément Le Bossu, Les Trois Mousquetaires. Mon père m'expliquait, ma mère savait. Et alors, on va écouter peut-être une chanson, « Démons et merveilles », qui a été dans le film « Les visiteurs du soir ».
Démons et merveilles, vents et marées, déjà la mer s'est retirée, mais toi comme une algue, doucement caressée par le vent, dans les sables du lit, tu remues en rêvant. Démons et merveilles, vents et marées, au loin, déjà la mer s'est retirée, mais dans tes yeux entrouverts, petite vague sont restées. Démons et merveilles, vents et marées, de petites vagues pour me noyer.
Eh bien voilà, nous venons d'écouter donc Cora Vauquer qui chantait « Des monts et merveilles ».
Alors, les premières années de Jacques Prévert, le début de l'année 1900, alors 1904, de 1904 à 1906, la violence régnait dans les rues de Paris. Tout le monde se battait et les gardes à cheval tapaient sur tout le monde pour les séparer. Évidemment, c'était l'histoire de l'affaire Dreyfus. Il y avait énormément de graves problèmes qui se remuaient pas mal. Hein. On se rappelle les grandes manifestations qui se sont passées à Paris en 1934 de l'extrême droite. Et Jacques demande à son père, pourquoi se battent-ils pas les mêmes idées. Mais ils criaient tous, vive la France. C'est curieux. Alors voilà, donc les hommes de Soutane inspiraient beaucoup une vive répulsion au petit Jacques. Et il a écrit un poème impressionnant, mais qui est très long, mais bon, c'est, s'appelle La crosse en l'air. Donc c'est un poème très très virulent et qui est quasiment interdit, quoi, même encore peut-être aujourd'hui, je ne sais pas. Donc voilà, il dit, c'est un feuilleton, hein, alors c'est très long, mais je vous en dis quelques passages. Rassurez-vous, braves gens, ce n'est pas un appel à la révolte, c'est un évêque qui est saoul et qui met sa crosse en l'air comme ça, en titubant. Il est saoul, il a sur la tête cette coiffure qu'on appelle mitre et tous ses vêtements sont brodés richement. Il est saoul, il roule dans le ruisseau, sa mitre tombe, c'est le soir. Ça se passe rue de Rome, près de la gare Saint-Lazare. Sur le trottoir, il y a un chien. Il est assis sur son cul. Il regarde l'évêque. L'évêque regarde le chien. Il se regarde en chien de faïence. Mais voilà l'évêque fermant les yeux. L'évêque secoué par le hoquet. Le chien reste immobile et seul. Mais l'évêque voit deux chiens. Dégueulis! Dégueulis, dégueulis. Voilà l'évêque qui vomit. Dans le ruisseau passent les cheveux. Des cheveux des vieux peignent des tickets de métro, des morceaux d'ouate thermogène, des préservatifs, des bouchons de liège, des mégots. Enfin, l'évêque pense tristement, est-il possible que j'aie mangé tout ça? Le chien hausse les épaules et s'enfuit avec la mitre. L'évêque reste seul devant la pharmacie. Ça se passe rue de Rome. Rue de Rome, il y a une pharmacie. L'évêque crie. Le pharmacien sort de la pharmacie. Il voit l'évêque, il fait le signe de la croix, puis, plaçant ensuite deux doigts dans la bouche de l'évêque, il l'aide. Il aide l'évêque à vomir. L'autre appelle son fils, fait la signe de la croix. Mais c'était un peu saoul, il était saoul. Ça continue comme ça, il est complètement à côté, quoi. C'est un poème terrible, très, très fort, que j'aime beaucoup. Donc, à 6 ans, Jacques entre de plein pied dans la vie de bohème. Son père, viré, trop souvent absent, déprimé, de la compagnie d'assurance, son employeur, dans la gêne, la misère. Les Prévert deviennent des déclassés. Misère à Toulon, misère au retour à Paris. Enfin, par son grand-père emploie à le fils des pauvres. Voilà ce que son père retrouve. Il reprend son souffle après la faim, le froid, saisi de tout par les huissiers. Enfin, logement décent, voire de luxe. Dans un hôtel datant du XVIIIe siècle, une nouvelle école, mais encore des ennuis pour Jacques. Prévert, voulez-vous vous taire? Non. Voilà. Alors, on va passer à la page d'écriture. Du fond 4.
Alors, on va trouver.
Bon, Et il disait quand même, j'ai toujours été intact de Dieu. Jacques se forgera une âme de révolté pour la vie. Toujours aux côtés des pauvres, contre les riches. Les ouvriers, contre les bourgeois. 2 et 2, 4. 4 et 4, 8. 8 et 8 font 16. Répétez, dit le maître. 2 et 2, 4. 4 et 4, 8. 8 et 8 font 16. Mais voilà l'oiseau lyre qui passe dans le ciel. L'enfant le voit. L'enfant l'entend. L'enfant l'appelle. Ah, sauve-moi, joue avec moi, oiseau. Alors l'oiseau descend et joue avec l'enfant. 2 et 2, 4, répétez, dit le maître. Et l'enfant joue avec lui. 4 et 4, 8, 8 et 8 font 16. Et 16 et 16, et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, 16 et 16? Ils ne font rien, 16 et 16. Et surtout pas 32. De toute façon, ils s'en vont. Et l'enfant a caché l'oiseau dans son pupitre et tous les enfants entendent sa chanson et tous les enfants entendent la musique. Et 8 et 8 à leur tour s'en vont. Et 4 et 4 et 2 et 2 à leur tour fichent le camp. Et 1 et 1 ne font ni 1 ni 2. Et 1 et 1 s'en vont également. Et l'oiseau lyre joue. Et l'enfant chante. Et le professeur crie. Quand vous aurez fini de faire le pitre! Mais tous les autres enfants écoutent la musique et les murs de la classe s'écroulent tranquillement et les vitres redeviennent sable, l'encre redevient eau, les pupitres deviennent arbres, la craie redevient falaise, le porte-plume redevient oiseau. Oui, il a toujours aimé beaucoup les oiseaux. Il a d'ailleurs... Il y a plusieurs poèmes sur ça qui sont très très beaux. Enfin, une fois, Henri Michaux, 30 ans plus tard, hein, à cette époque, lui demande, tandis qu'en Espagne coulait à flot le sang de la guerre civile, il lui demande d'écrire, de lui dire un poème, enfin de lui envoyer un poème, donc, qui s'appelle Chanson. Dans le sang. Et il y a beaucoup de sang. Ça va plus du tout. Je n'ai pas du tout retrouvé dans le livre.
Alors, c'est peut-être pas le bon livre.
sans doute. Parce que j'ai les deux livres là. C'est là. Voilà, c'est là.
Ah, ben voilà. Voilà.
C'est un poème que je disais dans un spectacle que j'ai fait sur Prévert qui s'appelait « Contes à cloche-pied ». Et cette poésie, chaque fois que le public l'entendait, et il y avait des gens qui venaient me trouver, ils me disaient « Faut pas dire ce poème, c'est trop triste, c'est trop affreux. » Enfin, vous allez vous rendre compte si c'est vraiment affreux. Je crois que Jacques Prévert n'avait pas peur de dire la vérité. Il y a de grandes flaques de sang sur le monde. Où s'en va-t-il tout ce sang répandu? Est-ce la terre qui le boit et qui se saoule? Drôle de soulographie alors, si sage, si monotone. Non, la terre ne se saoule pas. La terre ne tourne pas de travers. Elle pousse régulièrement sa petite voiture, ses 4 saisons, la pluie, la neige, la grêle, le beau temps, jamais elle n'est ivre. C'est à peine si elle se permet de temps en temps un malheureux petit volcan. Elle tourne la terre, elle tourne avec ses arbres, ses jardins, ses maisons, elle tourne avec ses grandes flaques de sang et toutes les choses vivantes tournent avec elle et saignent. Elle s'en fout. La terre, elle tourne et toutes les choses vivantes se mettent à hurler. Elle s'en fout. La terre, elle tourne. Elle n'arrête pas de tourner, le sang n'arrête pas de couler. Où s'en va-t-il tout ce sang répandu? Le sang des meurtres, le sang des guerres, le sang de la misère et le sang des hommes torturés dans les prisons, le sang des enfants torturés tranquillement par leur papa et leur maman, et le sang des hommes qui saignent de la tête dans les cabanons, et le sang du couvreur quand le couvreur glisse et tombe du toit, et le sang qui arrive et qui coule à grands flots avec le nouveau-né, avec l'enfant nouveau, la mère qui crie, l'enfant pleure, le sang coule, la terre tourne, la terre n'arrête pas de tourner, le sang n'arrête pas de couler. Où s'en va-t-il tout ce sang répandu? Le sang des matraqués, des humiliés, des suicidés, des fusillés, des condamnés, et le sang de ceux qui meurent comme ça, par accident. Dans la rue passe un vivant avec tout son sang dedans, le voilà soudain mort et tout son sang est dehors. Et les autres vivants font disparaître le sang, ils emportent le corps. Mais il est têtu, le sang, et là où était le mort, beaucoup plus tard, tout noir, un peu de sang s'étale encore. Sang coagulé, rouille de la vie, rouille des corps, sang caillé comme le lait quand il tourne comme la terre qui tourne, avec son lait, avec ses vaches, avec ses vivants, avec ses morts. La terre qui tourne avec ses arbres, ses vivants, ses maisons. La terre qui tourne avec les mariages, les enterrements, les coquillages, les régiments. La terre qui tourne avec ses grands ruisseaux de sang.
Magnifique interprétation, Sophie, de ce magnifique poème.
Ah oui, ça faisait, c'est un poème que les gens n'aiment pas. Et même, enfin, ils ne pouvaient pas aimer, ils étaient effrayés. Ça les touchait énormément. Mmh. En plus, c'était, j'avais l'idée que c'était un enfant qui posait des questions, qui regardait, qui constatait. L'enfant, il pose toujours des tas de questions, il constate des choses, il voit des choses que personne ne croit qu'il peut voir. C'est ça que j'aime beaucoup chez Prévert aussi. Donc, alors, Jacques, le révolté, je pourrais dire le révolutionnaire, et il avait écrit ce poème. Mais le sang, pour lui, c'était aussi le sang de sa mère quand elle a eu un enfant, c'est le troisième, je crois, et qu'elle avait vu le sang de la naissance, parce qu'à l'époque, on avait les enfants souvent dans la maison. Donc il parle de tous ces sangs, puis il a vu les guerres, tout ça. C'est un poème. Le sang l'a beaucoup frappé, quoi, aussi bien enfant qu'adulte. Alors on parle. Il était très bien avec. Il aimait beaucoup la peinture. D'ailleurs, il était peintre aussi. Enfin, il faisait surtout des collages. Et la peinture a été comme la poésie. C'est avec les surréalistes que j'ai appris beaucoup de choses. Voilà ce qu'il dit. Et Picasso dit, eh bien, quelle idée de peindre une pomme, dit Picasso. Et Picasso mange la pomme, et la pomme lui dit merci, et Picasso casse l'assiette et s'en va en souriant. Et le peintre, arraché à ses songes, comme une dent, se retrouve tout seul devant une toile inachevée, avec au beau milieu de sa vaisselle brisée les terrifiants pépins de la réalité. C'est ça que justement la réalité, Prévert, il a fait un long poème aussi, bon, je ne peux pas dire tout, il a fait un long poème sur la réalité de la peinture de Picasso, où il parle au Picasso dans un tableau, je ne sais pas encore exactement comment il s'appelle, c'était un tableau où on voyait les tuyaux du radiateur, on voyait non seulement l'endroit, mais l'endroit avec tous ces espèces de trucs techniques, quoi, de la vie d'aujourd'hui, Et ça faisait bien, quoi. C'est, on ne montre pas ça dans un tableau, mais Picasso le montrait à sa façon. Et alors Prévert dit que c'était un grand peintre, d'autant plus qu'il voyait ce qu'il voyait. Il le disait, c'était un peintre de la vérité, ce qui n'est pas toujours le cas dans la vérité. Alors, bon, je vais voir celui-là. Donc, le terrifiant pépin de la réalité. Voilà ce qui... c'est assez frappant, et c'est ce qu'il admirait chez Picasso, entre autres, bien sûr. D'ailleurs, Picasso le considérait comme un homme de grand talent. Il a toujours été très fidèle à Prévert. Bon. Alors donc, on va essayer d'écouter Cora Vauquer dans l'orgue de Barbarie. Ou Cora Vauquer ou...
C'est par les frères Jacques.
Non, c'est les frères Jacques. Parce que elle le chante aussi. Mm-hmm. Les frères, oui, Cora Vauquer. Non, pas Cora Vauquer, les frères Jacques.
Les frères Jacques.
Que j'ai eu le plaisir de connaître quand je vivais à Paris.
Les frères Jacques.
J'étais très amie, ouais. Oui.
Alors, on écoute tout de suite.
Moi, je joue du piano, disait l'un. Moi, je joue du violon, disait l'autre.
Moi, de l'art.
Moi, du banjo.
Moi, du violoncelle.
Moi, du biniou.
Moi, de la flûte.
Et moi, de la crécelle.
Et les uns et les autres parlaient de ce qu'ils jouaient. On n'entendait pas la musique. Tout le monde parlait, personne ne jouait.
Mais dans un coin, un homme se taisait. Et de quel instrument jouez-vous, monsieur, qui vous taisez?
Et qui ne dit rien, lui demandèrent les musiciens.
Moi, je joue de l'orgue de Barbarie. Et je joue du couteau aussi.
Dit l'homme qui jusqu'ici n'avait absolument rien dit.
Et puis il s'avança le couteau à la main.
Il but à tous les musiciens.
Et il joua de l'orgue de Barbarie.
Et sa musique était si vraie, si vivante et si jolie,
que la petite fille du maître
de la maison sortira de sous le piano.
Endormi par l'ennui,
et elle dit:
moi je jouais au cerceau,
à la balle, au chasseur,
je jouais à la marelle,
je jouais avec un seau,
je jouais avec une pelle,
je jouais au papa
et à la maman,
je jouais à chat perché,
je jouais avec mes poupées, je jouais avec une ombrelle,
je jouais avec mon petit frère,
avec ma petite sœur,
je jouais aux gendarmes et aux...
Mais c'est fini,
c'est fini, c'est fini,
fini, fini,
ennemi, c'est fini.
Je veux jouer à l'assassin, je veux jouer de l'orgue de Barbarie.
Et l'homme prit la petite fille par la main, ils s'en allèrent dans les villes, dans les maisons.
Après quoi, ils se marièrent
et ils eurent beaucoup d'enfants.
Mais l'aîné a pris le piano,
le second le violon,
le troisième la harpe,
le quatrième la crécelle,
le cinquième le violoncelle.
Et puis ils se mirent à parler.
On n'entendit plus la musique et tout fut à recommencer.
Voilà, c'était l'orgue de Barbarie par les frères Jacques.
Oui, on les entend plus guère, hein, parce que quand même, il existe beaucoup de disques. Donc, on revient un peu, bon, il y a le cinéma. Il citait une phrase de Vauvenargues, et il disait « La servitude abaisse les hommes jusqu'à s'en faire aimer. » Hein, ça rappelle quelque chose. Alors, à la radio, il faisait des émissions poétiques, mais le matin à 7 heures. À 7 heures du matin, on disait les poèmes de Blaise Cendrars, de Apollinaire, de Verlaine, de Jacques Prévert par lui-même. Et ça s'appelait « Promenade avec Jacques Prévert ». Donc, vous voyez, c'est intéressant aussi de voir. Mais c'était très suivi. C'était très suivi, même à 7 heures du matin, mais par des gens qui allaient au travail. C'est une bonne idée à 7 heures du matin.
Oui, eh ben, on fera ça dorénavant.
Moi, je suis prête. Alors, il y avait, donc, ça s'appelait, je crois, les émissions de l'école buissonnière qui ont fait connaître les chansons de Prévert et de Cosma auprès du public. Donc, en 1945. La guerre n'est pas terminée, parce qu'on continue à se battre, même encore en Bretagne. En 1946, il avait 21 chansons en hommage, enfin il y a eu 21 chansons, et une en hommage au père et à la mère de Jacques Enoch, assassiné dans un camp de concentration. Voilà, donc on vient d'entendre les frères Jacques. Et il fait non avec la tête, ça c'est un poème aussi, il fait non avec la tête, mais il fait oui avec le cœur. Mmh. Ça, c'est aussi quelque chose de ces contradictions, quoi, qui est de la vie que lui aussi avait. Le cinéma, bon, c'est très important ce qu'il a fait avec le cinéma, qui est d'ailleurs grâce à son frère, bien sûr. Et le 2 mars 1945, au bénéfice des prisonniers et déportés des œuvres sociales du cinéma, enfin déportés et des œuvres sociales du cinéma, première mondiale des Enfants du Paradis de Marcel Carné, avec dialogue et scénario de Jacques Prévert, enfin Jacques Prévert et Marcel Carné d'ailleurs, au Palais de Chaillot. Succès immense. Un chef-d'œuvre. Popularité naissante du poète, parce qu'il n'était pas encore très connu. C'est après avoir vu « Les enfants du paradis » que j'ai voulu être acteur, déclarait Marlon Brando à son ami Daniel Gélin. C'est intéressant.
Oui, oui, oui. Ouais,
on découvre des choses vraiment très, très belles. Alors, il y a eu bien sûr des critiques sur ce succès, sur... un certain Charansol des Nouvelles littéraires qui disait que l'œuvre était remarquable en de nombreux points de vue, mais qui pêchait par excès d'intelligence. C'est curieux comme critique.
Ah, ça dérange. Hein.
Ça dérange l'intelligence, ouais. Hein, mais il a écrit dans toutes lettres dans les Nouvelles littéraires. Puis il y en a eu d'autres comme ça, je ne peux pas les citer toutes, mais enfin, il a été toujours très critiqué par cette. Ces gens en place, en général des gens bien placés, plutôt vers la bourgeoisie, n'est-ce pas ? Donc, c'était des gens bien en place. Lui, il n'était pas du tout ça. Il était un bohème, comme il le disait d'ailleurs. Alors, Paul Éluard lui envoie un document, il lui envoie un remerciement à Jacques. Il s'appelle Digne de vivre. Pour mon ami Jacques, qui écrit les plus belles chansons du monde et dont l'existence me console de bien des malheurs. Paris, 1er août 1944. Achèvement de Barbara, hiver 1945. Et toujours clame son horreur de la guerre. Voilà, donc Paul Éluard a toujours soutenu Prévert, qui d'ailleurs à la Libération a été encore remis en question parce qu'il n'aurait pas été résistant, enfin, il n'aurait pas été... Bon, alors c'est une des choses qui est assez curieuse, hein, parce qu'il a fait une chose très étonnante et très drôle. Il a été même très courageux. Et ça a été, disons, les gens s'en rappelaient en riant tout le temps, quoi, mais c'était extrêmement dangereux ce qu'il a fait. Mais enfin, on va y revenir. Pour le moment, j'en suis à Barbara. Alors, on peut entendre.
On peut écouter
Barbara,
la chanson, bien sûr, par les frères Jacques.
Oui.
Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous
la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisé rue de Siam. Tu souriais, et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas.
Rappelle-toi, rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas.
Un homme sous un porche s'abritait et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie ruisselante, ravie, épanouie.
Et tu t'es jeté dans ses bras, rappelle-toi cela, Barbara.
Et ne m'en veux pas si je te tutoie, je dis tu as tout ce que j'aime.
Même si je ne les ai vus qu'une seule fois, je dis tu as tout ce qui s'aime. Même si je ne les connais pas, rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas cette pluie sur la mer, sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'Ouessant.
Es-tu devenu maintenant sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang?
Et celui qui te serre dans ses bras amoureusement, est-il mort, disparu, ou bien encore vivant? Oh, Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, mais ce n'est plus pareil, et tout est abîmé, c'est une pluie de deuil terrible et désolée, ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang, ou simplement des nuages qui crèvent comme des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, très loin de Brest.
Magnifique chanson, Barbara, donc, dont les paroles sont de Jacques Prévert et chantées par les frères Jacques. Merci encore, Sophie, de me faire redécouvrir tout ça.
C'est magnifique.
Ouais, hein. Ouais, vraiment.
Barbara. En Bretagne, surtout dans le Finistère, j'ai connu beaucoup de Barbara. Entre les deux guerres, les deux dernières guerres, je séjournais souvent à Ouessant. C'est une île sauvage, belle, intacte. Et à Ouessant, il était fréquent d'entendre dans la rauque et tendre langue des Iliens un appel familier, « Barbara ». Pourtant, en France, et à ma connaissance, ce nom ne figure pas dans le calendrier de saints estampillés par la religion catholique, apostolique et romaine. C'est un nom libre, libre. De là son charme. On m'a beaucoup reproché « Quelle connerie la guerre !» Alors que la guerre n'était pas terminée. Il paraît qu'il y a un temps pour tout. Moi, je m'en fous. La chanson interdite sur les ondes nationales. La mémoire collective gardera ce poème aussi célèbre que les feuilles mortes. Alors nous allons écouter les feuilles mortes.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte. Dans la nuit froide de l'oubli, tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La 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 la. La 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 la. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
Voilà une merveilleuse interprétation évidemment de d'Yves Montand, certainement un enregistrement assez ancien à entendre, le crépitement.
Oui, mais ça fait rien.
Ça fait rien, ça reste magnifique.
Ça fait rien parce qu'aujourd'hui c'est trop clean.
Oui.
C'est très clean et très bruyant et c'est pas obligatoirement. C'est bien, c'est une réalité quoi. Alors justement à propos de ça, d'objets, dans les cahiers d'art promenade de Picasso, un texte du grand peintre. Il dit « Jacques Prévert figurera dans le premier cercle de mes amis. » Il dira « Il n'y a que dans ce qu'a écrit Prévert que je me retrouve. La révolte, le sens de l'humour exacerbé, propension à associer des objets, des idées qui n'ont de prime abord rien à voir avec les uns et les autres. » Alors justement, je vais vous dire un poème qui s'appelle « Chanter à tue-tête et à cloche-pied ». Alors c'est donc cette histoire d'objet. Un immense brin d'herbe, une toute petite forêt, un ciel tout à fait vert et des nuages en osier, Une église dans une malle, la malle dans un grenier, le grenier dans une cave, sur la tour d'un château, le château à cheval sur un jet d'eau, le jet d'eau dans un sac, à côté d'une rose, la rose d'un fraisier, plantée dans une armoire, ouverte sur un champ de blé couché dans les plis d'un miroir, sous les ailes d'un tonneau, le tonneau dans un verre à Bordeaux, Bordeaux, sur ses falaises, un rêve de vieux corbeau, dans le tiroir d'une chaise, la chaise en papier, un beau papier de pierre soigneusement taillé par un tailleur de pierre dans un petit gravier, tout au fond d'une mare sous les plumes d'un mouton, nageant dans un lavoir à la lueur d'un lampion, éclairant une mine de crayons, derrière une colline gardée par un dindon, un gros dindon assis sur la tête d'un jambon, un jambon de faïence et puis de porcelaine qui fait le tour de France à pied sur une baleine au milieu de la lune, dans un quartier perdu, perdu, dans une carafe d'eau rougie à la flamme d'une bougie sous la queue d'une horloge tendue de velours rouge dans la cour d'une école au milieu d'un désert ou de grandes girafes et des enfants trouvés chantaient, chantaient sans cesse à tue-tête, à cloche-pied, histoire de s'amuser les mots sans queue ni tête qui dansent dans leur tête sans jamais s'arrêter. Et on recommence un immense brin d'herbe.
Bravo Sophie, quel punch.
C'est joli, non?
Ah, c'est magnifique.
C'est ça, les fameux... On retrouve d'ailleurs, on retrouve aussi cette cité d'inventaire dans le vomi de l'évêque. Mm. Tout ce qu'il croit qu'il a vomi, il croit qu'il a avalé. Qu'est-ce que... Alors, j'ai... j'ai encore perdu mon truc. Parce que j'avais... Oh mince, j'ai perdu mon chat. Non, enfin, bon, ça fait rien, je vais le retrouver. Que j'ai perdu mon papier. Là, c'est la chanson à tue-tête, voilà. Oh, j'ai trop de papiers. C'est la chasse à l'enfant. Bon, que je... Alors, bien sûr que cette histoire d'inventaire, il y a Devers qui aimait beaucoup ses amis. C'est... il a versé comme ça. Un vieillard en or avec une montre en deuil. Une reine de peine avec un homme d'Angleterre. Moi, je trouve ça... C'est, si tu lis, si tu y réfléchis, c'est pas faux, quoi. Il y a des choses, ça a du sens. Voilà, donc, il a fait aussi, il a beaucoup fait les films des dessins animés, notamment Le Roi et l'Oiseau.
Oui.
C'était pour lui très important. Et tu as trouvé quelque chose là-dessus, non?
Mais sur Le Roi et l'Oiseau, on sait que c'est pendant près de 30 ans, il travaille avec Paul Grimaud sur Le Roi et l'Oiseau. Et alors que Paul Grimaud avait enfin trouvé les moyens de finir son film et que Prévert était à l'article de la mort, il travaillera sur les dialogues jusqu'à son dernier souffle. Voilà, la veille de sa mort, il envoie un télégramme à Paul Grimaud avec ces mots « Et s'il n'en reste qu'un, nous serons ces deux-là ». Le Roi et l'Oiseau s'achève sur la libération d'un oiseau enfermé dans sa cage par le robot destructeur, lui, libéré lui aussi, et qui, dès que l'oiseau s'envole, écrase la cage d'un coup de poing. Tout Prévert résumé en un plan. Oui, c'est un très beau film d'animation. Alors, Richard, Sophie.
Oui. Donc, c'est vrai qu'il a écrit aussi... pour tout le monde, mais aussi beaucoup des enfants. C'était pour lui quelque chose d'essentiel. Et il soutenait et encourageait les jeunes artistes. Et il avait beaucoup d'amitié, d'amis qui venaient le voir. Il sème aux quatre vents ses poèmes recueillis par Roger Pigault et son premier éditeur, René Berthelet. Parce que quand, au début, il écrivait des poèmes, il s'en fichait, il les laissait sur une table. Et ça a été ramassé comme ça. C'était ramassé par ses amis. Et peu à peu, c'est comme ça, Berthelet, il a fait l'édition presque à son insu, quoi.
Enfin, ah oui.
Ça a été fait comme ça, donc c'est comme ça qu'il a été... Alors, je vous dis, c'est un poème sur la chasse à l'enfant qui est très connu. Et lui, qui a vécu... il a vécu dans une espèce de... Il a été dans une espèce d'institution. Il a énormément souffert et ça, c'est un peu... Ça rappelle un peu ça, mais ça rappelle aussi beaucoup d'autres choses. Donc... Bandit, voyou, voleur, chenapan. Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Bandit, voyou, voleur, chenapan. Qu'est-ce que c'est que ces hurlements? Bandit, voyou, voleur, chenapan. c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit, j'en ai assez de la maison de redressement. Et les gardiens, un coup de clé, lui avaient brisé les dents et puis ils l'avaient laissé étendu sur le ciment. Bandit, voyou, voleur, chenapan. Maintenant, il s'est sauvé. Et comme une tête, une bête, traqué, il galope dans la nuit. Et tous galopent après lui. Les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. Bandit, voyou, voleur, chenapan. C'est la masse des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis, tous les braves gens s'y sont mis. Qu'est-ce qui nage dans la nuit? Quels sont ces éclairs, ces bruits? C'est un enfant qui s'enfuit. On tire sur lui à coups de fusil. Voyou, voleur! Voyou, bandit! Chenapan, voyou, voleur! Tous ces messieurs sur le rivage s'embredouillent, verts de rage. Rejoindras-tu le continent? Rejoindras-tu le continent? Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Pour continuer toujours avec l'enfant, on imagine, c'est Pousset qui a rencontré l'autruche. Il était paumé dans la forêt. Et voilà, l'autruche. Lorsque le petit Pousset abandonné dans la forêt sema des cailloux pour retrouver son chemin, il ne se doutait pas qu'une autruche le suivait et dévorait les cailloux un à un. C'est la vraie histoire, celle-là. C'est comme ça que ça s'est passé. Le fils Pousset se retourne. Oui, plus de cailloux. Il est définitivement perdu. Plus de cailloux, plus de retour, plus de retour, plus de maison, plus de maison, plus de papa-maman. C'est désolant, se dit-il entre ses dents. Soudain, il entend rire, et puis le bruit des cloches, le bruit d'un torrent, des trompettes, un véritable orchestre, un orage de bruit, une musique brutale, étrange, mais pas du tout désagréable, si tout à fait nouvelle pour lui. Il passe alors la tête à travers le feuillage et voit l'autruche qui danse, qui le regarde, s'arrête de danser et lui dit « Mais c'est moi qui fais ce bruit, je suis heureuse, j'ai un estomac magnifique, je peux manger n'importe quoi. » Mais ce matin, j'ai mangé deux cloches avec leurs bâtons, j'ai mangé deux trompettes, trois douzaines de coquelicots ou de coquetiers. J'ai mangé une salade avec son saladier et les cailloux blancs que tu semais aussi, je les ai mangés. Ben monte sur mon dos, je vais très vite, nous allons voyager ensemble. Mais, dit le fils Pousset, mon père et ma mère, je ne les verrai plus. S'ils t'ont abandonné, c'est qu'ils n'ont pas envie de te revoir de si tôt. Ah, il y a sûrement du vrai dans ce que vous dites, madame l'autruche. Ne m'appelle pas madame, tu me fais mal aux ailes, appelle-moi autruche, tout court. Oui, autruche, mais tout de même, ma mère, n'est-ce pas?
N'est-ce pas quoi? Tu m'agaces à la fin et puis veux-tu que je te dise je n'aime pas beaucoup ta mère à cause de cette manie qu'elle a de mettre toujours des plumes d'autruche sur son chapeau.
Oui, le fait que ça coûte cher, mais elle fait toujours des dépenses pour éblouir les voisins.
Au lieu d'éblouir les voisins, elle aurait mieux fait de s'occuper de toi. Elle te giflait quelquefois.
Oh, mon père aussi me battait.
Ah, monsieur Pousset te battait. C'est inadmissible. Les enfants ne battent pas leurs parents. Pourquoi les parents battraient-ils leurs enfants? D'ailleurs, monsieur Pousset n'est pas très malin non plus. La première fois qu'il a vu un œuf d'autruche, sais-tu ce qu'il a dit?
Non.
Eh bien, il a dit, ah, ça ferait une belle omelette.
Le fils Pousset rêveur. Oui, je me souviens, la première fois qu'il a vu la mer, il a réfléchi quelques secondes et puis il a dit
« Quelle grande cuvette ! Dommage qu'il n'y ait pas de pont !»
Tout le monde a ri, mais moi j'avais envie de pleurer. Alors ma mère m'a tiré les oreilles et m'a dit « Tu ne peux pas rire comme les autres quand ton père plaisante !» Ce n'est pas ma faute, mais je n'aime pas les plaisanteries des grandes personnes.
Moi non plus. Grimpe sur mon dos, tu ne reverras plus tes parents, mais tu verras du pays. Ben ça va, dit le petit poussé, il grimpe.
Au grand triple galop, l'oiseau et l'enfant démarrent, c'est un très gros nuage de poussière. Sur le pas de leur porte, les paysans hochent la tête et disent « Oh, encore une de ces sales automobiles !» Mais les paysans entendent d'autruches qui carillonnent en galopant. « Oh, les paysannes, vous entendez les cloches ?» disent-elles en se signant. « C'est une église qui se sauve ! Ah, le diable sûrement court après !» Et tous de se barricader jusqu'au lendemain matin. Mais le lendemain, l'autruche et l'oiseau sont loin. C'est une petite pièce de théâtre.
On reconnaît la comédienne.
Alors, au temps de la résistance, pour en revenir à des choses moins gaies, en haut, sous les toits, cette fenêtre qui s'ouvre, cette silhouette, ce visage et ses cheveux et ce long cri tragique de fille et ce nom d'homme jeté avec amour et désespoir dans le silence de la nuit, comme au vent du large sur la lande désolée. Jacques Prévert n'a jamais oublié ni la rue, ni le cri, ni l'époque terrible où cela se passait. Danger pour Desnos, prévenu par Paul Éluard. Vous feriez bien de quitter Paris, vous êtes dans le collimateur, Desnos. André Verdet aussi. Arrêté par la Gestapo. Ils n'ont pas eu le temps de se sauver. Réflexion d'un agent, vous avez de la chance d'être tombé entre nos mains. Les autres avaient ordre de vous abattre dans la rue. Il y avait quand même des gens pas mal, des fois. Alors, il y avait aussi un comité d'action contre la déportation, dont faisait partie Prévert. André Virel arrêté, laisse en dépôt une grande malle en osier, abritant plusieurs centaines de jeux de faux papiers ainsi que des petites valises contenant le manuel du faussaire 1943, sous-titré « Voulez-vous voyager dans de bonnes conditions ?» Il fallait récupérer cette malle au plus tôt et la mettre en lieu sûr. Risque extrême alors qu'il prétendait toujours ne pas vouloir s'engager dans la résistance, Prévert se porta volontaire pour la mission la plus dangereuse. Il recruta des copains, du Flore, Julien Davrin, Molucci. Avec la malle, nous avons pris le métro. Davrin, Prévert, son chien, Dragon et moi. Au changement de Sèvres sur le quai, un Feldwebel en service s'approche de nous. Demande ce que contient cette malle. Dans ma poche, j'avais un pétard avec un silencieux. Ce qu'il raconte, c'est le résistant. Hein. Il avait un pétard, mais Prévert, un Prévert imperturbable, mais titubant, son mégot collé aux lèvres, s'interpose et répondit volontairement, idiot, bombe, hein. Bombe. Bombe, 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 bombe. Le fait de Belle, ahuri, fixa Prévert et pointa l'index de sa main droite vers sa tête en s'exclamant « Il est fou !» Et dans un gros rire, il s'éloigna. C'est pas mal, ça. Mais c'est une vraie histoire, c'est pas une blague. Hein. Voilà, c'est ça, c'est Prévert. Donc, quand les gens essayent de le critiquer, c'est assez triste, quoi. Voilà.
Donc, on est bientôt à 5 minutes de la fin de l'émission, déjà, oui, Sophie. Bon, est-ce qu'il y a des choses...
Je voudrais parler... J'ai pas eu le temps de parler de deux choses importantes dans sa vie. Ce sont les femmes, mm-hmm. qui ont beaucoup... Il était très recherché par les très jeunes femmes, notamment... qui était amoureuse, mais amoureuse jusqu'au bout, quoi. D'ailleurs, sa dernière femme était tellement amoureuse qu'elle a presque... Elle avait carrément étouffé, quoi. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et puis, il y avait le groupe Octobre, qui était un groupe de théâtre amateur. Ça s'appelait... C'était des groupes de théâtre ouvrier amateur. Il y en avait beaucoup en France, il y en avait beaucoup en Allemagne. C'était en 1929. Et c'était pendant la grande crise, 1929-1931. Et les surréalistes avaient découvert ce théâtre et amateur. C'était une fédération du théâtre amateur ouvrier de France.
On dit qu'ils allaient jouer dans les usines en grève.
Exactement, ils allaient partout, mais pas tout de suite. C'était entre eux d'abord. Et puis c'était les ouvriers qui se racontaient leurs propres problèmes. Et puis un comédien, un professionnel, les a pris en main, techniquement, quoi, disons. Et il connaissait Erwin Piscator, ce que faisait Piscator en Allemagne. Il faisait des choses gigantesques. Et il allait chercher, Piscator allait chercher le public ouvrier. Et il a inventé des choses étonnantes. Tout ça, on n'en parle pas, bien sûr. Mmh. Et alors, il demande des textes à Prévert. Mais ils avaient déjà, ils travaillaient, tous ces gens-là. Mais il les a fait travailler tellement, parce qu'il voulait une perfection professionnelle, qu'il les faisait travailler tellement que c'était devenu d'un très haut niveau. Et le groupe Octobre est devenu célèbre. Ils sont même allés en Union soviétique. Et donc, ils ont énormément créé de... Je ne sais pas, faudrait, rien que pour, sur eux, il faudrait une émission entière, parce que c'est tellement énorme ce qui a été écrit, ce qui a été joué, et où ça a été joué.
Est-ce qu'il faudra faire une Jacques Prévert suite le mois prochain?
Peut-être le théâtre, parce que le théâtre...
Parce qu'il nous reste 3 minutes. Est-ce qu'on ne termine pas avec une, avec la chanson de Tendre et dangereux visage de l'amour?
Voilà.
De Cora Vauquer.
Cora Vauquer, hein, qui est une merveilleuse chanteuse que j'allais écouter à Paris.
Et donc, qui est surnommée la Dame Blanche de Saint-Germain-des-Prés.
Oui. Elle avait une robe pas vraiment blanche, un peu beige, un peu bille, comme ça, avec des poches, je me rappelle.
Et longtemps, donc, elle défendait les textes de Jacques Prévert.
Oui, avec beaucoup de passion. Et puis, il fallait le voir sur scène, quoi. Elle était superbe. C'était une très bonne comédienne. Elle voulait être comédienne. Elle est venue à la chanson un peu comme ça, mais c'était son art. Elle avait étudié beaucoup. Elle est très, très bonne comédienne. D'ailleurs, elle joue. On la voit jouer sur scène. Elle est splendide. Mais quand elle chante, c'est très sensible. Elle a de l'émotion. Enfin, ça passe. Tout passe, quoi.
Donc, on va l'écouter et puis on va se dire au revoir, puisque déjà dans quelques minutes, ce sera le temps de RFI sur Fréquence Mistral.
Okay.
Merci Sophie, à très bientôt. Oui. On écoute donc Cora Vauquer.
Le tendre et dangereux visage de l'amour m'est apparu un soir après un trop long jour. C'était peut-être un archer avec son arc, ou bien un musicien avec sa harpe. Je ne sais plus. Je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a blessé, peut-être avec une flèche, peut-être avec une chanson. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a touché. Qu'il m'a touché, blessé au cœur, et pour toujours. Brûlante, trop brûlante blessure.